Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Ils arrivent, les Américains arrivent. Ils s'époumonnaient au café d'en face. Les premiers cris de joie fusaient du boulevard et nous firent sortir de l'égout. Je m'extrayais, hébété, de l'antre humide et sombre, ivre d'une curieuse sensation de délivrance. La condamnation à mort aurait-elle cessé ? Les femmes tapies dans la masure nous rejoignirent. Je découvrais les arbres, ces arbres que je ne devinais qu'au travers des persiennes condamnées. Ils étaient fous d'été. Les hauts feuillages frissonnaient dans le vent. Je dansais avec les platanes de l'avenue. J'étreignais le prunier à quetsch que j'apercevais il y a encore peu, sans oser l'approcher ni enfreindre l'interdit de m'y rendre, alors que les fruits étaient mûrs et que la faim me tenaillait. Bonjour Claude Berger.
Bonjour.
J'ai lu un extrait de votre dernier livre, Itinéraire d'un juif du siècle, publié aux éditions de Paris Max Chaleil, avec le soutien de la Fondation. Commençons par le titre. Pourquoi cet emprunt à Chateaubriand ?
Parce que Chateaubriand a écrit un itinéraire de Paris à Jérusalem, et tout en étant très impliqué dans la foi chrétienne, puisqu'il a écrit Génie du christianisme, il reconnaît l'espèce de miracle dans la survie des Juifs, dans le maintien de leur culture de toutes les façons, contre toutes les adversités. Donc ça, c'est la référence à l'itinéraire de Paris à Jérusalem. La deuxième référence, d'un enfant du siècle, ça fait penser à Musset, Confession d'un enfant du siècle, où il intériorise un traumatisme lié à la fin de l'épopée napoléonienne et sa réapparition dans un univers uniquement motivé par l'argent.
Il y a une phrase de Chateaubriand en exergue de votre livre. « Il est possible que mon itinéraire demeure comme un manuel à l'usage des juifs errants de ma sorte. » On pourrait dire la même chose de votre itinéraire à vous, Claude Berger.
Oui, c'est un itinéraire particulier. D'une part parce que je n'ai pas été caché dans une famille chrétienne ou paysanne, comme la plupart des enfants cachés.
Alors c'est justement là l'extrait que j'ai lu, c'est quand vous sortez de la cachette.
Ma particularité, c'est que j'avais déjà à faire le deuil de... ma mère est morte, elle était malade juste à ma naissance, et donc elle est morte, elle a mis 3 ans à mourir, mais dans un hôpital. Et mon père était un peu un être particulier qui était parti et qui ne m'a pas élevé, donc j'ai été caché avec les grands-parents. D'un certain côté, si j'avais un traumatisme de la perte parentale, d'une part, avec l'attente de l'arrestation, j'avais très bien compris l'enjeu du matin au soir, quand on est caché, qu'on attend du matin au soir, tiens, ils ne sont pas venus ce matin, tiens, ils viendront peut-être ce soir ou peut-être demain. Ça finit par créer une tension permanente. Et ensuite... Après coup, j'ai compris aussi que j'avais une espèce de privilège, c'était d'être caché avec les grands-parents et que quelque part, on vivait encore la temporalité juive ou la pensée juive affrontée à cette persécution.
On va y revenir. Alors, cet itinéraire, le vôtre, comporte 3, on va dire, moments charnières ou moments étapes. Il y a d'abord l'étoile jaune. Ensuite, la fuite dans le monde, on pourrait dire. Et enfin, le retour aux racines juives. Alors, je propose qu'on suive pour cette émission également cet itinéraire. Votre livre s'ouvre sur le récit de l'anniversaire de vos 6 ans. Juliette, ma grand-mère, prépara un gâteau au pavot bleu pour mon anniversaire. Je venais d'avoir 6 ans, mais ce jour-là, elle nous distribua aussi les étoiles jaunes. Et je l'ai pris comme un cadeau. C'est étonnant cette phrase, je l'ai pris comme un cadeau.
Pour plusieurs raisons, c'est que d'une part, j'étais heureux que j'aie cette étoile en même temps que mes frères, sœurs et cousins, cousines qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc j'avais peur d'être rejeté comme un bébé. Enfin, comme,
de ne pas y avoir droit en quelque sorte.
De ne pas y avoir droit, donc j'étais flatté. Et j'étais aussi flatté d'un autre point de vue. Je comprenais quand on voulait nous diaboliser et qu'on était donc détenteur de quelque chose qui, quelque part... faisait peur ou était antagoniste à nos persécuteurs. Et ça, c'est une sensation très forte. On veut me tuer parce que je détiens quelque chose de puissant et qui leur échappe. Et qu'il y a peut-être une clé du problème européen ou occidental dans, dans cette approche de reconnaître que c'était un cadeau. Ça m'obligeait à m'affronter moi-même à l'étoile et à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière l'étoile.
La première partie de votre livre nous permet de nous mettre dans la peau d'un enfant de 6 ans qui constate qu'il n'a pas le droit de faire du vélo parce que c'est interdit aux Juifs, qu'il n'a pas le droit d'entrer dans un square parce que vous savez lire et vous déchiffrez déjà que c'est interdit aux Juifs et même aux chiens. Un jour, vous passez devant une...
Ah oui, ça, j'ai le souvenir, c'était... Après le 15 mai 41, je crois qu'on avait été voir mon grand-père maternel qui habitait du côté de la place Voltaire. Et au retour, le café, maintenant c'est Hippopotamus, mais c'était le café Dupont. Le slogan, c'était Dupont, tout est bon. Chez Dupont, tout est bon. Et il y avait ce panneau interdit aux Juifs et aux chiens. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai à voir avec les chiens ? Plus tard, quand j'ai travaillé sur la question d'antisémitisme, pour suivre ce fantasme final qui naît à la fin du Moyen-Âge, au début des croisades, 1095, j'ai trouvé cette phrase de Chrétien de Troyes. Il raconte l'histoire de Perceval qui a bousculé sa mère, qui est morte sans qu'il lui-même se retourne. Et elle voulait le mettre dans les ordres et lui voulait aller à l'armée. Et donc dans les ordres, ça veut dire sans acte de chair possible. Et lui voulait dans l'armée où il y a la fausse virilité, disons. Et il est lourd d'un péché. Et jusqu'au jour où il rencontre le moine pêcheur qui lui dit « Il faut que tu manges le corps et le sang du Christ, enfin l'Eucharistie. » Et il lui dit, entre parenthèses, « Les Juifs, on devrait les tuer comme des chiens. » Voilà. Et il y a quelque chose, il y a un lien entre les chiens de Dupont tout est bon et les chiens de Chrétien de Troyes.
C'est d'ailleurs une caractéristique de votre livre, on pourrait dire, que vous ne contentez pas de faire le récit de ce qui vous est arrivé, mais vous cherchez aussi à comprendre ce qui vous est arrivé et pourquoi ça vous est arrivé. C'est-à-dire que cette phrase-là de Chrétien de Troyes, vous la citez dans le livre, c'est à la fois un récit autobiographique, mais aussi qui est truffé de tentatives d'interprétation. La question du pourquoi est toujours là.
Absolument.
C'est un livre un peu, d'une façon, total. Ça me rappelle la manière dont Proust définit la littérature. Il dit c'est la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie. Il y a cette volonté, pas seulement de vivre, mais de pouvoir éclaircir ce que vous avez vécu.
Effectivement, je crois que s'il y a quelque chose qui manque à l'éducation, c'est qu'on ne transmet pas le sens de la quête. Je veux dire, comprendre pourquoi on est dans le monde. Je rappelle que le judaïsme, ça ne se veut pas une religion, ça se veut un chemin de vie, des Derech HaChaim. Et donc, confronté au port de l'étoile, à la persécution, au décret de mort qui planait sur tous les Juifs. Donc il était important de s'interroger, est-ce que c'est moi qui suis tellement mauvais ou est-ce que c'est l'autre qui projette son fantasme sur moi ? Et je veux dire, tant qu'on n'a pas éclairci ce problème, on est très mal dans sa peau. Je veux dire, il y a encore des tas de Juifs qui ont vécu la Shoah, enfin survivants, et qui n'ont pas toujours résolu pourquoi on nous en voulait. Alors, ils sont toujours dans un mal-être. Est-ce qu'on affirme notre personnalité juive et je veux dire, tant qu'on n'a pas résolu ce problème, on a un mal-être.
Vous dites même, à propos de la cachette, c'est là où je voulais en venir, comment on passe du récit à, on va dire, l'analyse. Se cacher, c'est déjà disparaître, c'est effacer son appartenance, c'est déjà mourir. Longtemps après la guerre, j'ai dû me livrer à la chirurgie du dévoilement. Nombreux furent les Juifs rescapés qui, après la libération, n'ont pas cessé de se cacher. Alors vous dites soit en changeant de nom, soit même en reniant complètement leur identité juive. Voilà.
Je me souviens, j'ai un oncle, il avait une petite propriété. Il avait vendu la maison dans laquelle on avait été caché, il s'était acheté une maison dans le Loiret. Et il se fait qu'une fois, j'ai emmené une nièce en Israël. Elle a trouvé compagnon. Elle s'est installée en Israël. Elle a maintenant des 3 enfants, des petits-enfants. Et quand il venait, il ne voulait pas qu'il parle hébreu. On va nous entendre. Mais je lui dis, mais c'est fini la cachette. Et il stockait des boîtes de conserve, mais il y avait, moi j'ai un mur avec des livres, lui il avait un livre avec des boîtes de conserve.
Mais vous-même, vous avez mis du temps, vous le dites, à sortir de la cachette. Alors d'abord, cette cachette, c'est à Montreuil, vous pouvez peut-être nous raconter.
Montreuil-sous-Bois, mais c'est-à-dire que mon arrière-grand-père était venu de Roumanie, où les Juifs n'avaient pas le droit de posséder de la terre, et donc il s'était acheté une maison la moins chère possible, donc c'était la fin de la banlieue, c'était les champs de maraîchers déjà, les grands pêchers, ça existe toujours. Et donc, cet arrière-grand-père est décédé en 1938. Donc, ma grand-mère a dit, il n'y a que là qu'on pourra se cacher. De toute façon, on n'avait pas de moyens. Mes grands-parents étaient vieux et sans argent. Elle a dit, il n'y a que là qu'on peut aller. On avait été prévenu par le commissaire de police du quartier qui avait dit que le lendemain, il venait nous arrêter.
Donc, le Pletzel, vous habitiez à l'époque?
Absolument, oui. Avant et après la guerre, je suis retourné dans le Pletzel. Mmh. Ouais.
Et là, vous avez fait donc l'expérience de la survie, pas seulement matérielle, les conditions étaient très difficiles, mais aussi la survie spirituelle. Et ça, vous le devez à vos grands-parents, à votre grand-père, qui continuait à faire les prières, mais aussi à votre grand-mère.
Oui, mais c'est-à-dire que mon grand-père avait une forte culture viennoise et allemande, germanique. Enfin, vous savez qu'il y a eu une tentative de pensée judéo-germanique avec des grands écrivains. Et donc, Goethe était sympathisant des Juifs. Et donc, mon grand-père me faisait lire Goethe, Zweig.
Mais il mettait aussi le...
Avec le...
Les téphilines, non? Dans la cachette. Ou en tout cas, il...
Le Thalès, les téphilines, je n'ai pas mémoire. Mais le Thalès, oui. Enfin, je veux dire, bon, je raconte cette scène où un jour, la sonnette s'est déclenchée toute seule et... On a cru que qu'on était arrêté et mon grand-père a commencé à faire les prières.
Votre grand-mère aussi, vous la critiquez parfois un peu parce qu'on sent que c'était une femme dure, mais elle aussi se soucie de votre éducation et elle décide en pleine guerre de braver tous les dangers ou vous envoyant à l'école, hein, ça vous le racontez. Vous en êtes chassé pratiquement tout de suite, mais elle ne se décourage pas et elle se dit, ce petit, il faut que... Avant de mourir, en fait, hein, d'une certaine façon, parce que c'est le destin qui vous attend, le plus sûr, en tout cas. Il faut que vous ayez vu au moins les monuments. Et donc, vous racontez que vous voilà partie avec votre tante.
Voilà, mais je me posais la question, est-ce que je dois voir les monuments avant de mourir ou est-ce que c'est vraiment pour mon éducation? Donc, j'avais cette interrogation.
Oui.
Ma grand-mère était très autoritaire, pas très tendre, à vrai dire. Mais elle avait cette force qui se combinait avec celle du grand-père, qui était plutôt méditative. Elle avait cette force de me pousser vers l'avant et de ne pas subir ce qui nous arrivait. Donc, ce qui m'a valu, à cause ou à grâce à elle, je ne peux pas dire quelle formule choisir. Donc, ce qui m'a valu, un, d'être remis à l'école avec des faux papiers et d'être chassé de l'école par un directeur d'école français qui m'a dit « Tu es juif et moi je ne garde pas les juifs » et je lui dis « Je ne suis pas juif ». Il me dit « Reste ici, j'appelle la police, tu vas voir si tu n'es pas juif ». Donc ça m'a valu ça, ça m'a valu cette sortie pour voir les monuments avec ma tante qui c'était la seule personne qui travaillait et qui rapportait un peu d'argent qui nous permettait de survivre. C'était dans le... où maintenant est situé le MAJ, le musée d'art juif. C'était un atelier de conditionnement pharmaceutique. Et donc, c'est au retour qu'il y avait un barrage de SS, la police française à l'arrière, la milice à côté des SS. Et donc, là, ma tante m'a dit, tu fonces, on n'a plus le choix.
Mais quand vous êtes rentré, votre grand-mère vous a demandé comment c'était, les monuments, vous avez dit, c'était très bien, surtout Notre-Dame, et pas un mot. Vous avez échappé encore à l'arrestation.
Oui, parce que ma tante craignait ma grand-mère et sa foudre autoritaire, donc elle lui a caché, elle a décidé qu'on ne devait pas lui dire.
Pour finir sur la cachette, je voudrais juste lire un court extrait de votre livre, parce qu'on pour entendre aussi votre style, votre langue qui est très belle. Les deux années donc, où vous êtes caché, je n'ai en mémoire qu'une longue nuit hivernale, sans saison, ni printemps, ni été. À peine une fin d'automne ventée, et nous entrons dans l'hiver avec ses arbres dénudés. Les persiennes sont closes pour l'éternité. J'aperçois à travers un arbre, au tronc noirâtre, avec qui je dialogue. Il vivait des saisons que je ne vivais plus. Cette nuit est toujours là. Le jour est lumineux, mais au fond de moi, il y a une nuit. Après la cachette, j'ai lu tout à l'heure l'extrait donc, où vous sortez la cachette, c'est la libération. Vous racontez bien aussi que bon, c'est une joie, mais qui est loin d'être complète. Vous allez vous lancer à corps perdu dans le voyage, la découverte du monde, ce qu'on peut appeler une fuite en avant. Alors, on ne peut pas revenir en détail sur tous vos voyages et vos combats, parce que ce sont des voyages à chaque fois, des immersions dans des cultures étrangères. Mais ça, vous commencez par l'Allemagne, par Sigmaringen, puis la Norvège, l'Afrique. Vous exercez comme dentiste l'Algérie au moment de l'indépendance, où vous rencontrez Katabi Yassine. Ensuite, ce sera la France profonde, bourgeoise et prolétaire, dans le chapitre que vous racontez dans le chapitre intitulé « Un voyage au pays du bolchevisme français ». Ce sera aussi le Larzac, aux côtés des paysans, le Portugal de la révolution des œillets et enfin Israël. Alors, je précise que vous n'êtes pas un aventurier en quête d'exotisme, que chaque voyage relève d'un engagement qu'on appellerait aujourd'hui « humanitaire ». La pratique de votre métier de dentiste, par exemple, au service des autres, toujours. Comment vous comprenez, avec le recul, ce besoin que vous avez eu de vous perdre dans le vaste monde en faisant don de votre personne aux autres, presque dans une forme un peu sacrificielle, enfin, en tout cas.
Oui, inconsciemment, j'ai dû vivre
vous mettez en danger, exactement.
Cette notion du judaïsme que Dieu se trouve dans le rapport aux autres et dans l'altérité par rapport aux autres. Donc je crois que c'est un point de vue important. Maintenant, dans ma démarche, je parle de l'intériorisation de notre propre mort. C'est une chose qui a affecté tous les survivants. On a intériorisé cette mort. Et deuxièmement, qu'on ne savait pas qui on était. Et deuxièmement, quand on est éduqué, enfin, quand on vit dans un milieu pratiquant, enfin, qui a une foi, enfin, plutôt que, je veux dire, se pose le problème du rapport à l'universel. Je veux dire, on ne convertit pas, les Juifs ne vont pas convertir, ils ont c'est le chemin d'un peuple que l'on suit. Et donc, après la guerre, j'avais un besoin d'universalité, puisqu'on avait été confinés dans l'enfermement, et je cherchais qui j'étais. Alors, qui j'étais, ça passe par, il y avait la guerre d'Algérie, qu'est-ce qu'on fait face à la guerre d'Algérie ? À l'époque, je ne me posais pas la question du rapport islam et les juifs d'Algérie. Il y avait le problème de la torture pratiquée par l'armée française. Elle était pratiquée de l'autre côté, je l'ai vu après, mais je veux dire, c'était intolérable. On ne pouvait pas, en tant que jeune juif ayant été traumatisé par ce qui s'était passé en France et la participation du gouvernement de Vichy active, contrairement à ce que certains racontent. Donc, il était impossible de s'identifier à cette France qui prolongeait Vichy. Donc, c'est ça qui a motivé mon engagement vis-à-vis de l'indépendance algérienne.
La torture réveillant votre propre traumatisme.
Oui, mais parce que je sentais aussi qu'il y avait un lien entre le fait que le statut des Juifs était passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de grande manifestation. Je signale que quand il y a eu les morts de Toulouse, il n'y a pas eu de deuil national. Et je veux dire, la torture a un lien avec la persécution des Juifs, parce que c'est une émanation de la même matrice culturelle. Je veux dire qu'il ne faut pas oublier que la torture, elle a été instituée par l'Église, pratiquée par l'Inquisition, et que c'est l'Église qui l'a imposée à la royauté. Et le mérite de Louis XVI, on oublie trop souvent, c'est d'avoir abrogé la torture dans les tribunaux royaux. Donc, deuxième chose, donc j'ai cherché mon identité, puis je voulais un univers, disons, social. Enfin, je veux dire, je subissais deux choses. Enfin, je subissais aussi la misère, donc j'étais en révolte contre l'inégalité, contre l'injustice. Donc, une amie m'a fait rêver, soi-disant, d'un communisme primitif qui était refoulé en Afrique, et je me suis investi dans cette recherche. Mais quelque part, je cherchais aussi mon identité. Alors, je devenais noir avec les noirs, norvégien avec les norvégiens, algérien avec les algériens, jusqu'à temps d'être face à moi-même et de savoir quelle identité j'avais et quel message à usage universel les juifs détenaient.
Alors, on en vient à la troisième partie, si on peut dire, de votre vie. Enfin, à un moment donné, vous posez vos valises, si on peut dire, vous rentrez à la maison, d'abord dans le Marais, où vous habitez toujours. Mais vous continuez à combattre. Alors, un de vos combats fameux, c'est celui contre ce que vous avez appelé dans Libération, la deuxième déportation des habitants du Marais en 1975. Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, alors il se fait donc j'ai écrit ce livre vers l'abolition du salariat, qui était critique du léninisme et de la social-bécuisme, qu'elle soit un peu renversée par une séparation, puisque ce livre a eu droit à deux par le livre, une série d'articles sur crise du capitalisme, crise du salariat. Donc, je pouvais écrire quand je voulais. Il se trouve dans le sujet d'une menace d'exclusion. Je voulais donner tout le quartier à la galerie Macht. Et les gens n'avaient pas été prévenus, d'une part. Et d'autre part, pour opérer cette opération d'expulsion, le gouvernement s'appuyait sur un décret pris sous Vichy, comme quoi les habitants étaient là à titre précaire. Ouais. Je vous garantis qu'on était là à titre très précaire. Donc j'ai... Les habitants viennent me trouver, Claude, puisque tu commences à être connu, que tu fais ce que tu veux dans Libération, défends-nous. Alors, je venais d'écrire la préface à la grève de Lippe, où j'avais, dans les temps modernes, je l'avais apporté à André Gortz, qui l'a accueilli à bras ouverts. On arrête le numéro, on publie cet article en éditorial. Et les Lippe, qui avaient fait une grève, qui allait au-delà de la grève, qui était une remise en cause du mode d'existence en France, et donc, ils avaient inventé ce slogan, une usine, c'est pas des hommes, c'est pas des murs, c'est des hommes. Et j'ai dit, voilà, il faut appliquer ça ici, un quartier, c'est pas seulement des habitations, des immeubles, ce sont aussi des gens. Et la salle s'est soulevée en disant « Ouais, Claude a raison ». Et donc, on a mené une bataille. Et j'ai fait ces articles dans Libération, non à la deuxième déportation, en montrant que il y avait un projet aussi derrière l'expulsion d'en finir avec cette culture populaire. Il y avait une culture populaire juive dans le Marais avant la guerre et encore un peu après la guerre.
Alors, cette culture, vous avez contribué à la ranimer, si on peut dire, avec le train de vie. Mm-hmm. Donc, ce restaurant qui maintenant a fermé, mais qui a eu plus de 10 ans d'existence, avec une petite interruption.
Une fois 3 ans, une fois 4 ans, oui.
Oui. Et aujourd'hui, vous êtes, on pourrait dire, un animateur culturel un peu itinérant aussi.
Oui.
Vous chantez dans les maisons de retraite à Lausée, par exemple,
oui,
là, récemment.
Au Cassip-Cojazor aussi.
Au Cassip-Cojazor. Et tout en continuant à collaborer, à intervenir dans le débat public. Un de vos premiers textes, c'est dans Libération aussi, Georges Marchais, la question juive.
Absolument.
En 1978.
Non, c'est dans Le Matin.
Dans Le Matin, voilà. Oui. Vous dénoncez l'antisémitisme, en fait, d'origine communiste, sous couvert d'antisionisme.
Oui.
Et aujourd'hui, plutôt dans les cahiers Bernard Lazare, il y a un texte de vous sur Zemmour qui va paraître là, je crois.
Absolument. Il y en aura un autre aussi, un peu différent dans Causeur aussi. Oui, mais je dénonce Zemmour prétend attaquer le manichéisme de gauche, mais il en importe un autre, le manichéisme d'extrême droite. Je veux dire, un texte qui est bourré de mensonges, de faussetés. Je veux dire, où son motif inconscient, c'est de voir une continuité dans la nation française pétainiste et celle de Gaulle. Et à mon sens, il n'y en a pas. Mais je veux dire, on ne peut pas nier le rôle de Pétain dans la persécution, ni de Vichy. Enfin, je veux dire, en fait, il y a deux antisémitismes. Il y avait une compétition entre l'antisémitisme de la Révolution nationale française et celui de l'Allemagne. Alors, il est vrai que jusqu'au 27 mars 1942, il n'y avait pas de projet français d'extermination. Il y avait simplement l'arrestation des Juifs étrangers. Et des persécutions contre les Juifs français. Et puis, à partir du 27 mars 1942, on ne pouvait plus se voiler la face. De toute façon, tout le monde était, enfin, je veux dire, au courant, sauf à nier la réalité. Je rappelle une lettre du consistoire d'août 1942 qui dit « On les envoie à la mort ». Donc, et les le pasteur Bögner le dit aussi, et le cardinal Gerlier, Suard, tout le monde dit qu'ils vont être sans doute exterminés. On n'envoie pas des vieillards et des enfants dans des camps de travail. Enfin, je veux dire, faire croire ça. Et il y a une phrase extrêmement importante que tout le monde doit entendre. C'est une phrase de Xavier Vallat qui a été jugé trop mou.
Que vous citez dans votre livre.
Que je cite dans mon livre, où il dit, avant mai 42, et il dit il faudra veiller sans exagération à ce que quelques spécimens de juifs alsaciens ou d'anciens combattants ne soient pas éliminés. Ça veut dire que les autres, ils vont être éliminés. N'est-ce pas, monsieur Zemmour?
Malheureusement, on va devoir s'arrêter. On pourrait évoquer aussi votre passion pour l'alpinisme. Hein. Vous étiez. Quand vous étiez caché, vous étiez promis d'apprendre à la fois à la navigation, ce que vous savez faire, hein, parce que, donc à pouvoir franchir les mers, mais aussi à pouvoir passer seul les montagnes afin de fuir par l'une ou l'autre voie en cas, au cas où, une prochaine fois. Voilà, donc vous êtes aussi vous continuez à pratiquer cette passion de l'alpinisme.
Absolument.
Merci Claude Berger. J'invite les auditeurs à se procurer votre livre Itinéraire d'un juif du siècle. C'est un très beau livre qui contient aussi une galerie de portraits de Jacques Lanzmann à Othello de Carvalho, en passant par Kateb Yassin, Bernard Lambert du Larzac, sans oublier Georges Perec et votre maître, si je peux dire, Léon Poliakov. Les Raïm, et à dimanche prochain, c'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net.